Chapitre 30. Le même jour. Troisième partie. Tertullus se rendit promptement au palais, heureusement, ou plutôt malheureusement, pour ses candidats au martyr. Corvinus alla à sa rencontre, apportant le décret impérial et légalement écrit en lettres onciales, c'est-à-dire en énormes lettres majuscules. Sa position de préfet lui donnait droit à être admis à toute heure près de l'empereur. Il lui raconta comme un fait politique la mort d'Agnès, exagérant l'exaltation populaire qu'elle causait et attribuant tout le mal à la maladresse et à la stupidité de Fulvius. Mais il ne parla pas du crime principal de Fulvius, car il craignait d'avoir à le juger et que le débat du procès n'amenât la découverte de ses ambitions paternelles. Tertullus diminua, aux yeux de Maximien, la valeur des biens d'Agnès et acheva son récit en disant que si l'empereur voulait faire un acte de gracieuse clémence qui satisferait les sentiments du peuple, il n'avait qu'à donner l'héritage d'Agnès à sa cousine, sa plus proche héritière. Il dépeignait Fabiola comme une jeune fille dont la science étonnante égalait la haute intelligence et qui, profondément dévouée à l'empereur, adorait les dieux protecteurs de Rome et offrait chaque jour un sacrifice au génie des empereurs. « Je la connais !» dit Maximien en riant, comme au souvenir d'une aventure plaisante. « Pauvre fille, elle m'a envoyé une bague splendide et me demandait hier d'épargner la vie de ce misérable Sébastien au moment où on venait de l'assommer. » Et Maximien, riant aux éclats, continua en ces termes. « Oui, sans doute, un petit héritage la consolera de la perte de cet ami. Apportez-moi un rescrit et je le signerai. » Tertullus produisit le rescrit déjà préparé, disant qu'il avait tout à fait compté sur la clémence du magnifique empereur, et le barbare couronné apposa sa signature, dont un écolier eut rougi. Le préfet remit le décret à son fils. À peine était-il sorti quand Fulvius entra. Il s'était rendu chez lui pour revêtir un costume plus convenable pour la cour et effacer de ses traits, à l'aide du bain et de l'art du parfumeur, la trace de ses émotions de la matinée. Il sentait en lui un pressentiment subtil de son désappointement. La froide discussion qu'il avait eue le soir précédent avec Eurotas l'avait préparé à un renversement complet de tous ses projets, et ses nombreux désappointements de la matinée fortifiaient cette conviction instinctive. Une femme semblait être née pour entraver tous ses rêves, pour le jouer en toute occasion et pour se trouver toujours sur son chemin, mais, les dieux en soient loués, il ne la rencontrerait pas en ce moment sur sa route. Ce matin, pensait-il, elle a pour toujours flétri mon honneur, mais elle ne peut venir m'enlever ma récompense, chèrement gagnée. Elle a fait de moi un banni, mais elle ne peut faire de moi un mendiant. C'était le seul espoir de l'espion d'Asie. La misère était devant lui et le poussait en avant. Il se résolut donc à faire valoir ses droits sur les biens confisqués d'Agnès devant le seul compétiteur qu'il eût à redouter, le rapace empereur lui-même. Il risquait sa vie sans trop de regrets, car s'il échouait, il était entièrement ruiné. Après quelques heures d'attente, il entra dans la salle d'audience et, avec son sourire le plus doucereux, il s'avança jusqu'au pied de l'empereur. « Que venez-vous faire ici ?» fut le salut de bienvenue du maître. « Seigneur, répliqua Fulvius, je viens supplier humblement votre royale justice d'ordonner que la part des biens d'Agnès qui me revient me soit donnée. C'est sur mon accusation qu'elle a été convaincue de christianisme et elle a souffert la peine méritée par tous ceux qui désobéissent aux édits impériaux. » « C'est tout à fait vrai, mais nous avons entendu parler de votre maladresse accoutumée dans cette affaire, qui a excité contre nous des mécontentements et des murmures parmi le peuple. Ainsi, à compter d'à présent, le plus tôt que vous pourrez quitter notre présence, débarrasser notre palais et la ville de Rome sera le mieux pour vous. Entendez-vous, nous ne donnons pas d'ordinaire deux fois un ordre de ce genre. J'obéirai à l'instant même à tout ordre de la volonté suprême. Mais je suis dans la misère. Qu'on me donne seulement ce qui me revient de droit et je partirai immédiatement. « Pas un mot de plus, répondit le tyran, mais partez tout de suite. Quant aux biens que vous demandez avec tant de persistance, vous ne pouvez les avoir. Nous en avons entièrement disposé, par un rescrit irrévocable, en faveur d'une très illustre et très méritante patricienne, la noble Fabiola. » Fulvius n'ajouta pas une parole. Il baisa la main de l'empereur et se retira lentement. Il était ruiné, ses espérances brisées. On l'entendit seulement dire en passant la porte « Après tout, elle a pu aussi me réduire à la mendicité. » Quand il revint chez lui, Eurotas, qui lut la réponse dans le regard de son neveu, fut étonné de son calme. « Je le vois, dit-il avec aigreur, tout est fini. »« Oui, vos préparatifs sont-ils faits, Eurotas ?»« À peu près. J'ai vendu les bijoux, les meubles et les esclaves, avec perte sans doute, mais avec ce que j'avais, nous possédons assez pour regagner l'Asie. J'ai gardé Sabio, le plus fidèle de nos serviteurs. » Il portera nos petits bagages de voyage sur son cheval. Deux autres chevaux seront préparés pour vous et pour moi. Je n'ai plus qu'une chose indispensable à avoir pour notre voyage et je suis prêt à partir. Quel est cet objet indispensable? C'est un poison que j'ai commandé la nuit dernière, mais il ne doit être prêt qu'à midi. Que voulez-vous en faire? Demanda Fulvius inquiet. « Vous le savez bien, » répondit l'homme au teint de cuivre, toujours impassible. « Je veux tenter encore la fortune dans un lieu ou dans un autre. Mais notre marché est clair, la famille de mon père ne peut finir dans la misère. Elle doit s'éteindre dans l'honneur. » Fulvius mordit sa lèvre mince, puis répliqua. « C'est bien, faites comme vous l'entendez, je suis las de vivre. Quittez la maison le plus tôt possible, de peur qu'Éphraïm ne vous découvre. » Et trouvez-vous avec vos chevaux à la troisième borne militaire, au-delà de la porte latine, aussitôt après la tombée du jour. Je vous y rejoindrai, j'ai aussi, avant de partir, une affaire importante à conclure. Quelle est cette affaire? Demanda Eurotas avec une curiosité avide. Je ne peux en parler même à vous. Mais si je ne suis pas près de vous 2 heures après le coucher du soleil, ne vous inquiétez plus de moi et fuyez seul. Eurotas fixa sur son neveu son œil sombre et froid, avec un de ces regards qui perçait l'âme de Fulvius. Il cherchait si le jeune homme n'avait pas le désir secret d'échapper à son joug de fer. Mais Fulvius restait froid, son regard paraissait plus franc que de coutume, et le vieillard n'en demanda pas davantage. Pendant ce dialogue, le jeune homme avait retiré son costume de cour pour revêtir un habillement complet de voyage. Il se préparait si évidemment à partir, sans penser à revenir dans sa maison, qu'il prit ses armes sur lui. Outre son épée, suspendue à sa ceinture mais cachée sous ses vêtements, il plaça un de ses poignards recourbés de la trempe la plus fine et de la forme la plus dangereuse qu'on trouve seulement en Orient. Eurotas se rendit aussitôt au quartier des archers de Numidie et demanda Jubala. Elle entra, tenant 2 petites fioles de différentes tailles, et elle donnait quelques explications à son client, lorsqu'elle vit son mari qui, moitié ivre, moitié furieux, approchait. Eurotas eut juste le temps de cacher les fioles dans sa ceinture et de passer à Jubala une pièce de monnaie avant l'arrivée d'Iphax. Sa femme lui avait parlé, avant leur mariage, des offres d'Eurotas et cette pensée excitait, dans le sang de ce bouillant Africain, une jalousie qui allait jusqu'à la haine. Le sauvage numide jeta brutalement sa femme hors de la chambre et aurait cherché querelle au sombre Syrien si ce dernier, ayant obtenu ce qu'il désirait, n'eût calmé le chef des archers maures en l'assurant qu'il ne le reverrait jamais. Puis il se retira. Mais il est temps pour nous de rejoindre Fabiola. Le lecteur s'attend peut-être à ce que nous lui annoncions qu'elle est rentrée chrétienne chez elle, et pourtant il n'en fut pas ainsi. Que connaissait-elle du christianisme pour le professer ? Elle avait admiré dans Sébastien et dans Agnès une vertu généreuse, désintéressée et qui n'avait rien de terrestre et elle commençait à penser qu'on pouvait attribuer cette grandeur d'âme à leur foi commune. La jeune fille comprenait que cette religion donnait des motifs à ses actions sublimes, qu'elle avait des principes qui dominaient la vie, élevaient l'esprit, fortifiaient la conscience et guidaient la volonté vers une morale divine qu'aucune autre croyance ne faisait pressentir. Et même si Fabiola songeait, supposition qu'elle comptait éclaircir dans un moment plus calme, si elle pensait que les sublimes révélations de Syrah sur une sphère de vertu invisible et un témoin lisant jusqu'aux pensées les plus secrètes émanaient de la même source, il n'y avait là à ses yeux qu'un système de morale élevée dont une partie appartenait à la théorie et l'autre à la pratique, comme tous les codes des philosophies qu'on enseignait. De cette croyance à la pratique du christianisme, un grand pas restait à faire. Fabiola n'avait jamais entendu parler de ces doctrines réelles et essentielles, de ces mystères à la fois profonds et adorables, ni du céleste édifice de la foi que l'âme la plus simple peut embrasser, comme l'œil d'un enfant qui réfléchit une haute montagne qu'un géant ne saurait escalader. Jamais l'idée d'un seul Dieu, indivisible dans sa trinité sublime, de son Fils unique, égal à lui-même et incarné pour sauver les hommes, n'était venue frapper cette brillante intelligence. Jamais on ne lui avait raconté l'histoire merveilleuse du Rédempteur et des souffrances et de la mort d'un Dieu. Elle n'avait jamais entendu nommer Nazareth, Bethléem ou le Calvaire. Comment aurait-elle pu se dire chrétienne et comment aurait-elle pu l'être en ignorant toutes ces grandes choses? Combien de noms devaient sonner doux et familiers à son oreille, noms qui pour elle étaient encore inconnus ou barbares, comme ceux de Marie, de Joseph, de Pierre, de Paul et de Jean. Nous n'avons pas besoin de répéter le plus doux de ces noms, qui est comme un baume consolateur pour le cœur blessé, ou comme la goutte de miel que distille encore le rayon brisé. Il lui restait beaucoup à apprendre sur les secours qui sont laissés à l'Église pour nous aider à accomplir notre salut sur la terre, la grâce, les sacrements, la prière, l'amour de Dieu et l'amour des autres. Dans quelle immense étendue les religions inexplorées se déroulaient au-delà du court chemin qu'elle avait jusque-là parcouru. Mais l'esprit de Fabiola ne cheminait pas encore sur cette route. Elle regagna son palais, accablée des émotions du jour et de la nuit précédente et attristée des scènes douloureuses de la matinée. Quand elle se retira dans son appartement, elle n'était peut-être plus philosophe, mais elle n'était pas encore chrétienne. Elle ordonna à ses esclaves de quitter la cour ou donner ses appartements afin que le plus léger bruit ne vînt pas la troubler, et elle défendit de laisser pénétrer qui que ce fût près d'elle. Alors elle s'assit dans la solitude et le silence pendant plusieurs heures, car son agitation était trop grande pour qu'elle pût songer au repos. Elle pleura longtemps sur Agnès, comme une mère pleure un enfant soudainement enlevé à sa tendresse. Et pourtant, une nuée lumineuse perçait l'obscurité du nuage qui enveloppait la destinée de l'enfant, tandis que la tombe de Fabius semblait à sa fille aussi sombre que voilée. N'était-ce pas une insulte à la raison, un outrage à l'humanité, de penser que cette douce et charmante créature avait péri tout entière, que l'enfant, marchant sans crainte avec son radieux sourire, son visage rayonnant, sa robe blanche, son cœur simple et joyeux, n'eût trouvé que le néant, créature privilégiée à laquelle la vertu, la justice, la vérité, la pureté parlaient un langage entraînant, et qu'au moment où, étendant les bras pour saisir l'idéal, il s'était enfui pour la faire tomber dans un précipice où la destruction de tout son être l'attendait. Oh non, Agnès devait être heureuse quelque part, Fabiola en était sûre, ou la justice serait un mot dénué de sens. C'est étrange, pensa-t-elle ensuite, mais tous les êtres que j'ai connus et qui m'ont paru doués de vertus sublimes, des hommes comme Sébastien, des femmes comme Agnès, appartenaient à la race détestée des chrétiens. Il n'en reste plus qu'un, c'est Sira. Je l'interrogerai demain. Puis, quand, tournant ses regards du côté du monde païen, elle voyait Fulvius, Tertullus, l'empereur, Calpurnius, elle s'arrêta, car elle allait ajouter à ses noms le nom de son père. Elle s'affligeait de voir le contraste de la bassesse et de l'élévation, du vice et de la vertu, de l'intelligence avec la stupidité et du sensualisme avec le spiritualisme. Son esprit, semblable à un moule, attendait qu'une doctrine exquise vînt le remplir. Si cette doctrine ne venait pas, il se briserait. Son âme, tourmentée comme une terre aride, aspirait après la source du rafraîchissement céleste, où pour jamais elle deviendrait comme un immense désert. Agnès avait bien mérité, par sa mort glorieuse, la conversion de sa parente. Mais une autre jeune fille, dans une sphère plus humble, n'avait-elle pas, avant la Vierge martyre, des droits à cette belle conquête? Nous parlons de Sira, que nous avons vu jadis sacrifier sa liberté et offrir sa vie pour cette victoire désintéressée. Fabiola restait seule et désolée quand elle fut troublée dans sa douleur par la venue d'un étranger, introduit sous le titre pompeux de messager de l'empereur. Le portier lui avait d'abord refusé l'entrée. Mais comme l'étranger avait affirmé qu'il était chargé d'un message important du souverain, le serviteur de Fabiola consulta l'intendant, qui déclara qu'on ne pouvait refuser la porte à une personne envoyée par l'empereur. Fabiola fut très étonnée, mais son mécontentement diminua à l'apparition ridicule du personnage grotesque décoré du titre pompeux d'ambassadeur de Maximien. C'était Corvinus qui, avec la grâce d'un lourdeau, s'approcha de la jeune fille et lui débita un discours composé par un autre qui n'avait pas épargné les fleurs de rhétorique et que la mémoire infidèle de Corvinus dénaturait encore. Il déposa le rescrit impérial aux pieds de Fabiola avec sa sincère affection et mêlait les biens de la noble Agnès avec l'offre de sa main grossière. Fabiola ne pouvait pas comprendre le rapport qui existait entre les deux présents combinés et n'aurait jamais pensé que l'un était un présent intéressé pour obtenir l'autre. Elle chargea le messager impérial de ses humbles remerciements pour Maximien en ajoutant « Dites à l'empereur que je suis trop malade aujourd'hui pour me présenter devant lui et lui offrir mes hommages. » Mais ses biens, rappelez-vous-le, étaient perdus et confisqués. Reprit Corvinus tout confus. C'est mon père qui les a obtenus pour vous. C'était une peine inutile, dit Fabiola. Depuis longtemps, il m'était légué et devenait ma propriété du moment. Elle hésita et après un long effort sur elle-même, elle continua. Du moment où il cessait d'appartenir à un autre, il ne pouvait donc tomber sous le coup de la confiscation. Corvinus resta muet. Enfin, il grommela quelques mots qui parlaient de son désir d'être admis comme aspirant à la main de la jeune patricienne et que Fabiola prit pour une demande de récompense du document précieux qu'il avait apporté. Elle l'assura qu'elle ferait droit à sa réclamation dans un moment plus opportun, mais que, fatiguée et malade comme elle l'était, elle le priait de s'éloigner à présent. Corvinus s'enfla d'orgueil à la pensée qu'il avait gagné la récompense qu'il convoitait. Après son départ, Fabiola regarda à peine le parchemin qu'il avait laissé grand ouvert sur une petite table placée à côté de la couche de la jeune fille, et elle réfléchit aux tristes scènes dont elle avait été témoin dans la matinée. Sa rêverie se prolongea jusqu'à 1 heure environ après le coucher du soleil. Sa pensée errait d'un événement à un autre et s'arrêta enfin au souvenir de sa rencontre avec Fulvius dans le forum. Sa vive mémoire faisait revivre la scène tout entière sous ses yeux et, peu à peu, son esprit étant dominé par ses souvenirs pénibles, elle voulut les repousser et se prit à dire tout haut « Grâce au ciel, je ne reverrai jamais le visage de ce monstre !» Ces mots venaient de s'échapper de sa bouche quand, faisant de ses deux mains une ombre sur ses yeux et se soulevant sur sa couche, elle regarda du côté de la porte. Était-elle le jouet de son imagination surexcitée ou ses yeux vigilants ne la trompaient-ils pas? Ses oreilles décidèrent la question en entendant les paroles suivantes. « Dites-moi, je vous prie, madame, quel est l'homme au nom duquel vous joignez cette gracieuse épithète ?»« C'est vous, Fulvius, » dit-elle en se levant avec un mouvement plein de dignité. « Vous ne vous contentez pas d'avoir pénétré dans la maison, dans la villa et jusque dans la prison de ma noble parente, vous violez les appartements cachés de la demeure d'une femme et, ce qui est pis encore, vous osez paraître dans la retraite solitaire de celle qui, grâce à vous, verse des larmes douloureuses. Sortez à l'instant ou je vous fais honteusement chasser. » « Asseyez-vous et calmez-vous, madame, » reprit Fulvius, « c'est ma dernière visite. » Mais nous avons un compte à régler ensemble. Il est inutile que vous appeliez pour demander du secours. Vos ordres ont été fidèlement exécutés et aucun de vos serviteurs ne peut vous entendre. » C'était vrai. Fulvius avait trouvé le chemin tracé par Corvinus. Il se présenta d'abord à la porte et le portier, qu'il avait vu dîner 2 fois chez Fabius, lui dit que les ordres les plus stricts avaient été donnés et qu'un envoyé de l'empereur pouvait seul entrer d'après les instructions de Fabiola. Alors Fulvius répondit qu'il était en effet envoyé par Maximien, et le portier, bien qu'étonné du nombre des messagers impériaux qui venaient dans une seule journée, le laissa passer. Fulvius lui recommanda de ne point fermer la porte. Il était très pressé, ajouta-t-il, et dans le cas où, au moment de sa sortie, le portier serait absent, il n'aimerait pas à troubler toute une maison si éprouvée en ce moment. Il ajouta qu'on n'avait pas besoin de lui donner un guide, car il connaissait le chemin de l'appartement de Fabiola. Fulvius s'assit en face de la jeune fille et lui parla en ces termes. « Ne vous offensez pas, madame, de mon entrée inattendue près de vous, qui m'a permis d'entendre l'aimable monologue qui me concernait. C'est une leçon que j'ai déjà reçue de vous dans la prison tullienne. Mais remontons à l'origine de tous ces événements. Lorsque, pour la première fois, votre digne père m'invita à sa table, je rencontrai une personne dont les regards et les paroles conquirent mon affection. Je n'ai pas besoin de prononcer son nom, mais son cœur, par une sympathie instinctive, répondait au mien. « Insolent !» s'écria Fabiola. « Osez-vous faire ici une telle allusion ? Elle est aussi fausse que cruelle. Jamais un tel lien n'exista entre vous et elle. » J'ai, comme preuve convaincante, des sentiments de la noble Agnès envers moi, le témoignage de votre regretté père. C'est lui qui a encouragé mes espérances en m'assurant que sa jeune parente lui avait parlé de la sympathie qu'elle éprouvait pour moi. Fabiola se sentait mortifiée, car elle se rappelait bien que c'était trop vrai, en effet. Son père, sous l'influence d'une méprise grossière, lui avait parlé à elle-même dans ce sens. Je sais bien que mon père s'est fait une illusion complète à ce sujet. Mais moi, pour qui la chère enfant n'avait rien de caché, excepté sa religion, interrompit Fulvius avec une amère ironie. Silence, dit Fabiola. Ce mot résonne comme un blasphème sur vos lèvres. Je savais que vous n'étiez à ses yeux qu'un objet de mépris et de haine. C'est-à-dire que vous m'avez fait regarder comme tel. À compter de notre première entrevue, vous êtes devenue pour moi une ennemie aussi cruelle qu'acharnée, vous concertant avec ce perfide officier qui maintenant a reçu sa récompense et à qui vous destiniez la conquête que j'ambitionnais. Réprimez votre indignation, madame, car je veux être entendue jusqu'au bout. Vous avez noirci mon caractère auprès d'Agnès, vous avez dénaturé ses sentiments et vous avez changé l'amour que je lui portais en une inimitié nécessaire. Votre amour, interrompit la patricienne indignée. Et quand même, tout ce que vous venez de dire ne serait pas aussi bas que faux, quel amour pourriez-vous avoir pour elle? Auriez-vous été digne d'apprécier sa simplicité ignorante d'elle-même, sa modestie incomparable, son intelligence élevée, sa candide innocence? Vous eussiez-vous tout cela comme le loup contemple la douceur de l'agneau, comme le vautour apprécie la grâce de la colombe? Non, c'était sa richesse, la haute position de sa famille, sa noblesse qui vous tentait, rien de plus. J'ai lu votre basse convoitise dans la flamme qui brilla dans vos regards quand, pour la première fois, votre œil de serpent s'est fixé sur elle. C'est faux, répondit l'espion d'Asie. Si ma demande avait été exaucée, je me serais montré à la hauteur de ma position, doux, satisfait et affectueux. J'étais aussi digne de la posséder que... aussi digne que toute personne qui, en lui offrant sa main, se serait montrée également disposée, dans l'espace de 3 heures, à épouser la jeune fille ou à l'assassiner, reprit Fabiola. Elle a choisi la seconde alternative et vous avez tenu votre parole. Éloignez-vous à l'instant. Vous corrompez l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez. Je ne partirai qu'après avoir accompli ma tâche et vous n'aurez pas de raison de vous réjouir de mon départ. Vous avez donc résolument, et sans motif de ma part, flétri et détruit tous mes projets les plus honorables, en minant mon espoir, me retranchant de la société, m'ôtant tout avenir de richesse ou de félicité domestique. Ce n'était pas assez. Après avoir agi de la sorte, vous avez résolu ma perte entière en me traitant d'espion, et, surprenant ma conversation de ce matin, jetant loin de vous toute délicatesse féminine, vous êtes allé jusqu'au milieu du forum pour achever publiquement l'œuvre que vous aviez entreprise en secret, excitant à la fois contre moi le tribunal suprême et par lui l'empereur et l'injuste populace qui criait à la vengeance. Si un sentiment plus fort que la crainte ne m'amenait ici, grâce à vous, je serais forcé de fuir comme un loup traqué de toutes parts et de m'échapper par la porte la plus voisine. « Et je vous le déclare, Fulvius, s'écria Fabiola, au moment où votre pied franchira le seuil de Rome, le niveau de la vertu montera dans cette ville maudite. Encore une fois, je vous ordonne de quitter ma maison ou je me retirerai devant votre visite offensante. » « Nous ne nous quitterons pas encore, madame, » reprit Fulvius, dont le visage prenait la couleur de la pourpre, tandis que ses lèvres frémissaient de colère et se couvraient d'une pâleur mortelle. Il saisit rudement Fabiola par le bras et la força à s'asseoir, puis il ajouta « N'essayez pas de m'échapper ou d'appeler du secours. Votre premier cri d'alarme serait le dernier, quoi qu'il pût m'en coûter. Vous m'avez exilé non seulement de la société, mais de Rome. » Je suis un proscrit errant, sans asile et sans amis sur la terre. Ce n'était pas assez pour assouvir votre vengeance. Il vous a fallu mon or. Vous l'avez volé, cet or, qui était un bien si péniblement acquis. Ma paix, ma réputation, mes moyens de subsistance, vous m'avez tout volé, à moi, un jeune étranger. Misérable et insolent ! S'écria de nouveau la patricienne indignée, oublieuse des conséquences de cette apostrophe. Vous me répondrez de votre témérité. Comment osez-vous m'accuser de vol dans ma propre maison ? Oui, je l'ose. C'est aujourd'hui l'heure de votre jugement et non du mien. J'ai gagné ce bien. Quand même ce serait par un crime, peu vous importe. Mais je dois avoir ma part des biens confisqués de votre cousine. J'ai acquis ce droit par les angoisses et les déchirements de mon âme, par des nuits d'insomnie, par des luttes avec des démons qui m'ont vaincu, et avec un être qui, toujours à mes côtés, est plus terrible que tous, par des journées de recherche stériles pour découvrir l'évidence de mes accusations, en luttant au milieu de la désolation de mon esprit orgueilleux, mais dégradé. N'ai-je pas chèrement acheté ces biens ? Appelez-les comme vous voudrez, appelez-les l'argent du sang. Mais plus ils sont infâmes, plus il est bas à vous de venir me les dérober. » Vous êtes semblable au riche qui arracherait un corbeau de la gueule du chien, qui a déchiré ses membres et meurtri son corps à la chasse de cet animal. Je ne chercherai pas des épithètes qui vous conviennent, votre esprit est égaré par un songe vain, dit Fabiola avec une vivacité mêlée de crainte. Elle se sentait en présence d'un fou dont la passion violente, surexcitée par une imagination profondément ébranlée, atteignait ce degré de frénésie morale qui change aux yeux du meurtrier un crime en une vertueuse revanche. Fulvius, continua-t-elle avec un calme affecté et en le regardant fixement aux yeux, je vous invite à sortir de suite. Si vous avez besoin d'argent, vous en aurez. Mais sortez au nom des cieux, sortez avant que la colère détruise votre raison. À quelle vaine imagination faites-vous allusion ? Vous croyez qu'en un jour tel que celui-ci, et que jamais de ma vie, j'ai songé à m'approprier les biens d'Agnès et à tirer un avantage quelconque de sa mort cruelle ? Oui, c'est ainsi. J'ai appris de la bouche de l'empereur lui-même qu'il vous avait tout donné. Voulez-vous me faire croire que ce prince si libéral et si généreux aurait donné un sou de ses biens si on ne l'avait sollicité et pressé ? Je ne sais rien, mais je sais que j'aimerais mieux mourir de faim que de réclamer une obole des propriétés d'Agnès. Pensez-vous me persuader alors qu'il est dans cette ville un être assez désintéressé pour avoir fait la pétition en votre nom sans que vous le désiriez ? Non, non, Fabiola, tout ceci est trop incroyable. Mais qu'est-ce que cela ? Et il saisit vivement le rescrit impérial qui était resté inaperçu là où Corvinus l'avait déposé. Sa sensation fut semblable à celle d'Aîné, apercevant la ceinture de Pallas sur le corps de Turnus. La furie, qui, un moment, avait fait place à la ruse, tandis qu'il cherchait la culpabilité de Fabiola, se ralluma à la vue du fatal document. Il le regarda un instant, puis il reprit, en grinçant des dents et en hurlant avec rage. « À présent, madame, je puis vous convaincre de la bassesse, de la rapacité et de la cruauté surhumaine dont vous m'accusiez tout à l'heure. Regardez ce s'inscrit, magnifiquement écrit en lettres d'or et dont les marges sont ornées de dessins. Et osez me dire qu'on a eu le temps de le préparer pendant les quelques heures qui ont séparé la mort de votre cousine de l'instant où l'empereur m'a dit qu'il venait de signer. N'essayez pas de me dire qu'un généreux ami vous a procuré ses biens. Pendant qu'Agnès en prison approchait de son heure suprême, et qu'à ses côtés vous pleuriez et gémissiez sur elle, tandis que vous me reprochiez ma cruauté et ma bassesse envers elle, à moi, un étranger, et plus qu'un indifférent pour elle, vous, la patricienne délicate et généreuse, la vertueuse philosophe, la parente aimante et affectueuse qui me condamniez si sévèrement, vous calculiez froidement comment vous pourriez tirer parti de mon crime en vous assurant les biens de ma victime, et votre esprit inquiet cherchait le scribe élégant qui pourrait dorer votre convoitise et venir, à l'aide du minium, empourprer la preuve de votre trahison envers celle qui était votre chair et votre sang. « Taisez-vous, insensé !» s'écria Fabiola, dont le regard froid essayait en vain de dominer l'œil étincelant de Fulvius. Mais il continua, d'un ton plus sauvage encore. « Et c'est chose étrange, en vérité! Quand vous m'avez bassement volé, vous m'offrez de l'argent. Vous m'avez joué et vous avez pitié de moi. Après m'avoir réduit à la mendicité, vous m'offrez l'aumône prise sur mon salaire, le salaire que l'enfer lui-même ne refuse pas à ses victimes maudites tant qu'elles sont sur la terre. » Fabiola se releva, mais il la saisit d'une étreinte furieuse et, sans lui lâcher le bras, il continua. « Écoutez à présent les dernières paroles que je veuille vous dire, ou bien ce seront les dernières que vous entendrez. Rendez-moi les biens que vous avez injustement acquis. Il n'est pas juste que je porte la peine du crime et que vous en ayez la récompense. Mettez ici votre signature en indiquant que vous m'abandonnez les propriétés d'Agnès en don volontaire et je m'éloignerai. Si vous refusez, vous aurez signé l'arrêt de votre condamnation. » Un regard sombre et menaçant accompagna ces mots. À cette menace, la fierté de Fabiola se réveilla tout entière, son cœur vraiment digne d'une romaine demeura ferme. Le seul effet du danger fut de la rendre plus intrépide. D'un geste plein de noblesse, elle ramena autour d'elle les plis de sa robe et répliqua « Fulvius, écoutez-moi, ce sont peut-être les derniers mots que je prononcerai, mais dans tous les cas, ce seront les dernières paroles que vous m'entendrez dire. Vous abandonnez ses propriétés, dites-vous. Je les donnerai au premier lépreux que je rencontrerai dans la rue. À vous, jamais. Vous ne toucherez jamais un objet ayant appartenu à cette sainte jeune fille, que ce soit un diamant ou une paille. Votre contact les souillerait. Prenez mon or si vous le voulez, mais tout ce qui vient d'Agnès est à mes yeux un trésor que rien ne saurait racheter. De tous ses biens, il est un legs que j'estime plus que tout l'héritage. Vous venez de me donner à choisir entre les deux alternatives que vous lui avez proposées la nuit qui a précédé sa mort. Accueillir votre demande ou mourir. Agnès m'a appris ce que je devais choisir. Encore une fois, je vous ordonne de partir. Vous laissez posséder ce qui m'appartient, triompher de moi en me chassant, estimer quand je suis méprisée, riche et moi pauvre, heureuse lorsque je suis misérable. Non, jamais. Je ne puis me sauver de la situation que vous m'avez faite, mais je puis vous empêcher d'arriver à la position que vous n'avez pas le droit d'occuper. C'est pour cela que je suis venu ici. Voici mon jour de vengeance. » En disant ces mots, il la repoussait lentement de sa main gauche vers la couche qu'elle avait quittée, et de sa main droite, il fouillait en tremblant dans la partie supérieure de sa toge. En achevant ses dernières menaces, il jeta violemment Fabiola sur sa couche et la saisit par ses longs cheveux. Elle ne fit pas de résistance, ne poussa pas un cri. Elle ressentit une espèce de douleur et s'évanouit à demi. Le respect qu'elle avait d'elle-même l'empêcha de se montrer effrayée devant son misérable ennemi. Au moment où elle fermait les yeux, elle vit comme un éclair briller au-dessus de sa tête, sans savoir si c'était l'œil étincelant du meurtrier ou une lame d'acier brillant. Puis elle se sentit oppressée et suffoquée, comme si un poids pesant venait de tomber sur elle, et un ruisseau tiède vint inonder sa poitrine. Alors elle entendit une voix douce et suppliante résonner à son oreille. « Arrête, Orontius !» dit la voix. « Je suis ta sœur Myriam !» Fulvius, d'une voix que la fureur et l'effroi rendaient entrecoupées, répondit « C'est faux ! Rends-moi ma proie !» Ils murmurèrent quelques mots dans une langue inconnue à Fabiola, puis il sentit qu'on lâchait ses cheveux, la dague tomba sur le sol et Fulvius cria avec un accent désespéré en s'élançant hors de la chambre « Ô Christ, voici ta vengeance !» Fabiola revint à elle, mais le poids qui pesait sur elle semblait accru. Elle le repoussa et s'en délivra. Un autre corps gisait à sa place, couvert de sang et paraissait privé de vie. C'était la fidèle Syrah. Elle était venue se jeter entre la vie de sa maîtresse et le poignard de son frère.